Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Sentence with an apology. Sorry, that's the case. That's just British policy. Probably the case with everything in honesty. I use 10 words when 2 would do honestly. I'm British. And
that makes... Bonjour à tous. Le harcèlement des femmes. Au Royaume-Uni, ce sont des institutions multicentenaires qui se retrouvent sur la sellette. Les Gentlemen's Clubs, ces clubs privés où l'on se retrouve parfois exclusivement entre hommes pour discuter, boire et fumer, ont la réputation d'être des repère misogyne. L'un d'eux, le President's Club, a voulu pimenter son dernier gala de charité en embauchant des serveuses légèrement vêtues. Les plaintes pour harcèlement sexuel n'ont pas tardé. Les Private Members Club, on en compte une cinquantaine à Londres. Les immeubles sont souvent très chics, tout comme les salons, mais tous ne pratiquent pas un machisme séculaire. C'est le reportage de Marie Billon.
Sur la très chic avenue centrale Piccadilly, à deux pas de Buckingham Palace, se dresse un grand immeuble victorien. Ce sont les locaux du Royal Air Force Club, un club réservé aux soldats et ex-soldats de l'armée de l'air. Au plafond, cage d'escalier grandiose décorée de tableaux de maîtres. C'est au premier étage, après avoir passé plusieurs salles réservées à des banquets ultra chics, que nous retrouvons dans l'un des nombreux cafés de l'établissement, David Morris. Il a adhéré au club en même temps qu'il a rejoint l'armée en 1972.
Je me souviens de mon premier jour ici en 1972. J'étais assis dans le coin là-bas. C'était comme être à la maison. J'ai adhéré au club quand je suis entré dans l'armée. C'était et c'est encore un autre chez moi. C'est un style de vie, un endroit pour sociabiliser. Ici, je peux rester pour la nuit, je peux manger, je peux rencontrer des gens. Il y a plusieurs bars. Ce n'est certainement pas un lieu sans alcool. Au sous-sol, il y a même un pub, The Ronnie Horse. L'ambiance est assez détendue, mais sinon, c'est très formel. Vous avez vu la salle de bal en passant, elle peut accueillir jusqu'à 200 personnes. La reine vient parfois ici, beaucoup de gens importants y viennent.
Le RAF Club est mixte puisque l'armée est mixte, s'exclame David Morris et il trouve ça tout à fait normal. Mais ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Le Travelers Club, notamment réservé aux diplomates, n'accepte pas de membres féminins. L'ex-ambassadrice de France au Royaume-Uni, Sylvie Berman, par exemple, n'a pas reçu d'invitation à adhérer quand elle est arrivée à Londres en 2014. C'est l'homme le plus gradé sous elle qui a reçu le Bristol, précise le service de presse consulaire. Jean-Pierre Jouyet, lui, a bien été invité à rejoindre le Travelers Club à son arrivée en tant qu'ambassadeur en 2017, mais il n'a pas répondu.
Hello, my name's Jeremy Strong. I'm professor of literature and film at the University of West London.
Et justement, nous retrouvons Jeremy Strong à quelques encablures du RAF Club sur Piccadilly. Professeur de littérature, il organise parfois des tours touristiques des private member clubs du quartier voisin de St. James.
Well, we're going to do a short walking tour.
En route, donc, et le premier arrêt se fait devant une bâtisse géorgienne. Rien n'indique qu'il s'agit d'un club, pas de plaque, un immeuble anonyme, mais il suffit de se hisser sur la pointe des pieds pour distinguer à travers la baie vitrée un salon très chic à l'ancienne, mobilier de luxe et lumière tamisée.
We're outside Boodles, founded in 1762.
On est devant le Boodles, fondé en 1762. C'est le deuxième plus ancien club de Londres. C'est un gentleman's club réservé aux hommes. Il y a même une autre entrée pour les femmes qui se trouve à l'arrière. Je suppose que ça veut dire que les dames peuvent être invitées, mais elles ne peuvent pas utiliser la même porte. C'est assez unique.
Boodles est historiquement affilié au parti conservateur. Juste en face se trouve Brooksies, un club ouvert en 1764 par des politiques de l'autre parti de l'époque, les Whigs, ancêtres des centristes d'aujourd'hui. Mais attention, on ne travaille pas dans ce genre de club. Pas d'ordinateur, pas même de téléphone portable parfois. On sociabilise, on partage des grands vins luxueux et on joue parfois aux cartes. Le deuxième arrêt se fait cette fois devant le doyen des Gentlemen's Club de Londres.
Nous sommes devant le White's, le plus ancien et le plus exclusif des Gentlemen's Club. C'est ici que le prince Charles a fait son enterrement de vie de garçon la veille de son mariage avec Diana. Beaucoup de personnalités historiques ont été membres, notamment l'ancien Premier ministre David Cameron. Son père siégeait même au conseil d'administration. On le sait, Cameron a voulu discrètement mettre fin à son adhésion au club puisque ce n'était pas très bien vu d'appartenir à un endroit qui n'accepte pas les femmes. Je crois qu'elles ne peuvent même pas être invitées, mais il faudra vérifier avec le White's.
Et nous avons appelé White's. Dans ce but, le club a refusé de répondre à la question, nous renvoyant vers un livre publié sur leur site web, quasiment introuvable sur le net, tellement il est bien caché. Nous ne donnons pas une information qui a déjà été publiée, a expliqué un homme d'un ton sec au bout du fil. Pas de changement de règlement en vue donc, ce sont les membres qui décident, nous répond-on. Il va donc falloir se tourner vers Jérémy. Notre guide est membre d'un club 100% masculin depuis 1989. Il préfère en taire le nom, mais il a adhéré à celui-ci sur les conseils et grâce au sponsoring d'un de ses professeurs, car son thème convenait à son choix d'études littéraires. On ne travaille donc pas dans les clubs, mais on se rassemble entre gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Jérémy se sent-il un peu coupable d'appartenir à un club qui n'accepte pas les femmes ?
Non, honnêtement, hein, même si je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais je ne pense pas que les choses puissent changer dans un endroit en le quittant et en le critiquant de l'extérieur.
Jérémy ne détaille pas non plus l'intérêt de tous ces gentlemen à se retrouver entre hommes. Moins de politiquement correct, plus de plaisanterie crue, dit-on. Son ami Ashley le défend en avançant que Jérémy invite le plus souvent possible des femmes dans son club. Cette américaine de 32 ans, elle-même membre d'un établissement mixte, a dîné dans plusieurs clubs 100% masculins, toujours en tant que guest.
Walking in there, I do feel like I'm treading on ground that doesn't belong to me.
Dès que je pose le pied à l'intérieur, je sens bien que j'entre dans un endroit qui n'est pas pour moi. On me regarde avec insistance, mais on me jauge. Je n'ai jamais été harcelée et personne n'a jamais volontairement voulu me mettre mal à l'aise, mais je sens bien que je n'ai pas ma place ici. C'est un endroit construit autour de la masculinité. Les hommes tolèrent la présence d'une femme parce qu'ils savent que c'est pour un temps limité. Je n'ai d'ailleurs accès qu'à certains endroits et je ne peux pas me promener toute seule, sans quoi on m'escortera à ma place. Ma place étant auprès de l'homme qui m'a invité.
Fin février, dans le centre de Londres, un club réservé aux femmes s'est ouvert, Albright. Les hommes, cette fois, ne peuvent y pénétrer qu'en tant qu'invités, mais sont traités avec respect, dit l'une des cofondatrices. C'est un club privé pour que les femmes actives puissent se construire en réseau et s'entraider professionnellement sans la présence de ces messieurs.
C'est la flambée des prix sur les logements étudiants au Portugal, la fréquentation touristique en hausse et le nombre d'étudiants étrangers qui augmente de 12% chaque année ont fait grimper les prix des locations à Lisbonne. Seule planche de salut, les logements sociaux proposés par l'université qui pourraient contribuer à réguler un marché qui a perdu le sens de la mesure. Reportage à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Le centre d'appel d'Uniplac est polyglotte. Cette agence immobilière s'est spécialisée dans la location de chambres ou appartements aux étudiants étrangers. Vérification de l'état des lieux, garantie financière, prise de contact, une prestation de service très ciblée et un marché en plein boom. Inès Amaral, responsable marketing d'Uniplac.
80% de notre clientèle est étudiante, pour la plupart en licence ou en doctorat. 17 000 étudiants, ça représente 3 millions de nuits et 50 millions d'euros de recettes en loyer pour les propriétaires. En moyenne, ils louent pour un semestre, en raison des Erasmus ou des programmes de ce genre. Il y a 160 millions d'étudiants universitaires qui étudient hors de chez eux. C'est un marché de 400 milliards d'euros avec un fort potentiel de croissance.
Lisbonne, mais aussi Porto, sont très recherchés, mais l'offre y est insuffisante en raison des locations touristiques. Inès Amaral.
À court terme, la location touristique va rapporter plus d'argent aux propriétaires, car le prix de la nuitée est plus élevé, c'est vrai. Mais les dépenses d'entretien, les check-in et les check-out, la gestion des clés, tout ce travail quasi quotidien pour des gens dont ce n'est pas le métier, c'est très compliqué. Nous garantissons 9 mois de location sans problème. Et les mois d'été, les propriétaires peuvent faire l'expérience du logement touristique sur Airbnb ou d'autres plateformes.
Les Brésiliens représentent 13% de parts de marché chez Uniplac, devant les Espagnols et les Allemands, 9%, et désormais les Français, 7%. La demande est telle que les prix s'envolent. En moyenne 400 euros une chambre, la plupart du temps en colocation. Presque le prix d'un deux pièces il y a 5 ans. Près de l'université de Lisbonne, des étudiants s'époumonent pour célébrer la fin du premier semestre. L'une des résidences étudiantes, gérée par l'université, se trouve juste en face du campus. Construit dans les années 50, le bâtiment offre des chambres spacieuses mais au style daté. Pour Carlos Mesquita, responsable des services sociaux de l'université, il est nécessaire d'investir.
Nous disposons de 900 chambres en état sur un total de 1200, mais on va rapidement porter l'offre à 2000 chambres. Pour l'instant, ce sont les étudiants défavorisés économiquement qui ont la priorité et le barème est avantageux. Mais on a une marge pour attirer des étudiants plus fortunés qui ont des exigences par rapport à la qualité offerte et qui peuvent payer. Alors ce sera forcément plus cher.
Le prix de la chambre en résidence universitaire est calculé sur l'indice social minimum fixé chaque année au Portugal. Il va de 73 euros à 160 euros. Des prix très compétitifs face aux 400 euros en moyenne exigés dans le privé. Alors que le nombre d'étudiants nationaux diminue, ils étaient 390 000 au début du siècle, et ne sont plus que 362 000, le nombre d'étudiants étrangers, lui, augmente. Il est passé de 38 500 à 42 000 entre 2016 et 2017. La fac a décidé de construire de nouvelles résidences.
En élargissant notre offre, nous visons la régulation du marché. Si nous louons moins cher et pouvons faire face à la demande, cela limite la spéculation des privés, car ils devront offrir des services qui correspondent au prix qu'ils veulent pratiquer. Si c'est 400 ou 500 euros la chambre, ce prix doit être justifié. Nous ne voulons pas être des concurrents, mais nous voulons empêcher les dérives au service des étudiants nationaux ou étrangers et qui ont besoin de se loger.
À l'heure des cours, de rares étudiants en profitent pour faire tourner les machines à laver. Les prix avantageux pratiqués par le secteur public sont un atout important pour quelques-uns des 6000 étudiants étrangers du campus. C'est le cas de Daniel, un Erasmus polonais.
Si j'avais pris un logement dans le centre-ville, je ne pourrais absolument rien faire, car pour moi, tout est cher. Alors le fait d'être en résidence me permet de voyager, de me rendre en ville pour rencontrer les gens et faire ce que je veux. Trouver cher ou pas, ça dépend des revenus de l'étudiant.
Son amie, Ida, est satisfaite de son choix et des conditions offertes.
J'ai choisi de vivre ici pour les gens d'abord, pour la météo aussi. Rien à voir avec la Pologne, c'est bien plus chaud. Et surtout pour le contexte académique, car nous sommes étudiants en ingénierie et c'est nettement mieux ici. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais en réalité, c'est un peu comme chez nous. Les critères sont identiques à ceux de la Pologne. Il y a tout le confort, je suis très heureuse.
Alors que dans le centre-ville, des étudiantes chantent pour récolter de l'argent pour une bonne cause, l'heure est à l'inflation sur le marché immobilier étudiant. Un marché porté par une population étudiante étrangère qui augmente de 12% chaque année.
C'est l'histoire d'une survie miraculeuse, celle des petits commerces de détail face à la déferlante numérique. En Autriche, les vidéoclubs n'ont pas tous mis la clé sous la porte. Ils se sont adaptés et proposent des services irremplaçables. À Vienne, Céline Béal.
Dans les années 90, Vienne comptait un millier de loueurs de vidéos. Il n'y en a plus que 10 aujourd'hui. Entre-temps, la VOD, la vidéo à la demande sur Internet, est passée par là. Et le chiffre d'affaires s'en est forcément ressenti pour les loueurs. Alexander Lustig, propriétaire du magasin Filmgalerie Arsenhalp.
Nous avons cessé de nous affaiblir sur le plan économique, mais ici, nous avons réussi à ne pas tomber sous un certain seuil. Nos chiffres sont stables depuis quelques années, et ça, c'est grâce à la fidélité de nos clients.
Chaque jour, ils louent encore entre 30 et 90 DVD, et accueillent même de nouveaux clients, comme Bettina, étudiante et adepte de films d'animation japonais, qui vient d'ouvrir un compte.
L'avantage d'avoir encore un vidéoclub, c'est qu'on peut regarder un film juste comme ça, sans se dire « soit je l'achète sans savoir s'il va me plaire, soit je le regarde sur Internet, mais alors la qualité est mauvaise. »
Face à la recrudescence de films piratés sur le web, le loueur propose ses DVD et Blu-ray à 3,50 euros pour deux jours. Mais le service est surtout dans le conseil. Ainsi, Florian, client fidèle, a bravé le froid viennois, une demi-heure de trajet, autant pour se chercher un film d'action que pour le plaisir de discuter avec le fin connaisseur Alexander.
Il s'intéresse au client, il connaît ses goûts, c'est agréable, il peut te conseiller.
Florian estime que les utilisateurs de la VOD, orientés par des algorithmes, retombent toujours sur les mêmes films. Pourquoi alors les recommandations du patron de la Film Gallery, parmi les 100 000 titres qu'il a en stock, sont-elles meilleures que celles générées automatiquement par les machines ? Ce dernier lui-même ne le sait pas exactement.
Je sais juste que je fonctionne avec beaucoup d'imagination, et ça justement, un algorithme ne peut pas le reproduire.
L'imagination d'Alexander Lustig lui a aussi donné des idées pour arrondir les fins de mois. Celle de transformer son vidéoclub en association, pour pouvoir recevoir une subvention culturelle, et celle de vendre sur un coin du comptoir un peu de vin d'un ami producteur. Il faut croire que 100 000 DVD ne suffisent quand même plus tout à fait à attirer les clients.
L'acropole à Athènes et la cité de Knossos sur l'île de Crète étaient provisoirement fermées ce week-end. Deux sites symboliques en Grèce, touchés par une nouvelle grève des employés du ministère de la Culture. Charlotte Stivenard, vous êtes notre correspondante en Grèce. Bonjour.
Bonjour.
Cette grève rappelle que la crise n'est pas finie malgré le retour de la croissance.
Oui, hein, les chiffres sont pourtant positifs. Hein. Le produit intérieur brut de la Grèce a progressé de 1,4% l'année dernière. Les créanciers ont donné leur feu vert au versement d'une nouvelle tranche d'aide de 5,7 milliards d'euros. Donc, on parle beaucoup de reprise de l'économie grecque, mais en réalité, sur le terrain, la situation est plus contrastée. Après 8 ans d'austérité, les départs à la retraite continuent d'être remplacés au compte-gouttes dans le secteur public, par exemple. C'est une des raisons qui a poussé les employés du ministère de la Culture à se mettre en grève ce week-end.
Les grévistes réclament notamment l'embauche de 200 gardiens pour les nombreux sites archéologiques du pays.
Tout à fait, c'est ce qu'avait promis le Premier ministre Alexis Tsipras 1 an et demi plus tôt. Le ministère de la Culture indique qu'il y a 1 mois, la procédure a été confiée au Conseil suprême de recrutement du personnel du secteur public. En attendant, les nombreux musées et merveilles archéologiques du pays doivent faire avec les réductions de personnel de ces dernières années. Selon Ioannis Mavrikopoulos, le président de l'Union panhellénique des gardiens des sites archéologiques, ils sont passés de 2300 sur toute la Grèce avant la crise à 1500 aujourd'hui.
On parle donc de personnel très limité dans un secteur particulièrement important pour l'économie grecque, le tourisme.
Oui, et c'est ce que montrent notamment les chiffres du Fonds des recettes et des expropriations archéologiques. C'est lui qui collecte les revenus tirés de la vente des billets pour l'Acropole, par exemple. Selon le ministre de la Culture sortant, ses recettes s'élèvent à 80 millions d'euros par an. Aristide Baltas estime qu'avec une meilleure gestion, elle pourrait monter à 300 millions annuels. Alors qu'une réforme est en cours de discussion, il indique que la création de partenariats entre ce fonds public et des entités privées est une des pistes envisagées. C'est une des autres inquiétudes des syndicats, notamment la Fédération des employés du ministère de la Culture. Elle craint une forme de privatisation de ce fonds.
En parlant de meilleure gestion, Charlotte, l'ancien ministre explique qu'il s'agit également d'éviter des gaspillages.
Oui, à son arrivée au ministère, Aristide Baltas explique avoir découvert qu'une partie de ce fonds était reversée au fonds d'assistance du syndicat des gardiens. Il indique avoir fait un rapport aux autorités judiciaire à ce sujet. Il a également décidé que ce fonds ne financerait plus les week-ends et les heures supplémentaires des gardiens car il n'y avait pas de véritable contrôle jusqu'ici. Selon lui, ils devront donc être payés directement par le ministère de la Culture, ce que les gardiens refusent. Ils estiment que le système fonctionne et que s'il y a des dérives, c'est à la justice de trancher. Selon le vice-président de leur syndicat, Manolis Apostolakis, les heures supplémentaires et les week-ends leur sont actuellement payés tous les 2 mois par le fonds. Ils ont peur que si le ministère de la Culture et son personnel réduit s'en charge, cela prenne plus d'un an à chaque fois. Si leurs doléances ne sont pas entendues, une nouvelle grève pourrait avoir lieu lors du week-end de Pâques.
Merci Charlotte Stivenard à Athènes. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.